Bonjour, chers collègues. Merci d'être venu pour cette deuxième conférence d'une série de quatre. Je remercie Pierre-Michel Minguère de m'avoir invité. Le sujet de ces quatre conférences, c'est « Monde en valeur, processus culturel de production de l'inégalité ». La première conférence que j'ai donnée mardi dernier, ça portait sur mes travaux précédents sur les frontières de classe et les frontières de groupes raciaux aux États-Unis et en France. Et j'ai aussi développé sur des travaux plus récents concernant l'impact du néolibéralisme sur les critères d'évaluation. Et la tendance vers simplification des hiérarchies d'évaluation où de plus en plus les critères socio-économiques d'évaluation en viennent à dominer le monde. J'ai décrit cette tendance en utilisant un papier que j'ai écrit avec Nicolas Duvaux qui est sorti l'année dernière dans French Politics, Culture and Society. J'ai présenté très rapidement un article qui est encore en développement sur la tendance vers des frontières raciales et des frontières par rapport aux pauvres qui s'accentuent dans le contexte européen avec des directions un peu différentes que l'on considère les pays scandinaves, les pays de l'Europe de l'Est, les grands pays, les nation states de l'Europe et les pays du Sud. Et ensuite, j'ai discuté des travaux sur le bien-être collectif que j'ai développé au cours des 12 dernières années dans le contexte du Successful Society Project. Notre dernier livre s'intitulait « Social Resilience in the Neoliberal Era » et on analysait cette transformation des cadrages à travers lesquels on évalue la valeur des gens à travers l'influence du néolibéralisme, qui amène aussi la disparition de pluriarchie où ceux qui ne réussissent pas très bien à partir de critères socio-économiques ont tendance à se définir comme losers. Alors, j'ai présenté des éléments d'analyse et cette première présentation a en commun avec celle d'aujourd'hui le fait que le point d'entrée, ce sont des critères d'évaluation. La dernière fois, c'était le critère d'évaluation de la valeur des gens, des individus. Qu'est-ce qui fait une personne bien? Qu'est-ce qui fait une vie qui vaut la peine d'être vécue? Aujourd'hui, on change un peu de perspective pour mettre l'accent sur les critères d'évaluation dans le monde universitaire, avec comme point d'entrée privilégié l'évaluation par les pairs. Et je dois dire que cette deuxième conférence est particulièrement importante dans ce contexte-ci, compte tenu que mon hôte, Pierre-Michel Minguère, un des sujets qui nous rapproche, c'est spécifiquement la sociologie de l'évaluation. En préparation pour mon séjour ici, j'écoutais sa leçon inaugurale, avec beaucoup de plaisir, où il explique bien comment l'activité d'évaluation accroît en importance, c'est central et a des caractéristiques spécifiques qui caractérisent l'évaluation dans le monde artistique et dans le monde intellectuel. Alors, c'est en continuant à travailler ce sujet et en m'inspirant partie de ce qui est fait que je vais développer aujourd'hui autour de trois questions. D'abord, je vais vous parler de ce livre « How Professors Think » qui est sorti en 2009, qui est basé sur une analyse détaillée de cinq différentes compétitions nationale aux États-Unis où les évaluateurs distribuent des bourses de recherche aux étudiants doctoraux et aux professeurs. Alors, c'est un contexte où j'ai analysé les délibérations finales et j'analyse comment est-ce que ces 80 personnes qui participent au processus sont dans une situation où ils doivent convaincre les autres autour de la table que leur définition de la qualité universitaire c'est la meilleure et que les propositions de recherche que eux trouvent le plus valable doivent être en effet subventionnées. Et je discute ensuite brièvement de plusieurs papiers que j'ai produits après la publication de How Professors Think qui concernent l'évaluation par les pairs dans le contexte français dans le contexte chinois et aussi dans le contexte espagnol. Et je réfère aussi à un article qui concerne spécifiquement le cas de North Face, qui est une association européenne d'agences d'évaluation qui mettent leurs outils en commun pour neutraliser les problèmes qui sont liés surtout à l'évaluation dans les petites communautés scientifiques des pays comme la Finlande, mais ça inclut aussi des plus grands pays. Et d'ailleurs, un de mes co-auteurs est ici, Bruno Cousin, avec qui j'ai travaillé sur la France. Après que How Professors Think soit paru, j'ai écrit plusieurs articles qui essayent de proposer une perspective pour une approche plus générale de l'évaluation. Et je vais ensuite vous développer un peu le cadre que j'ai proposé dans cet article, qui est aussi un article de synthèse, dans la mesure où cet article met en rapport la littérature française qui est sur les questions d'évaluation, qui a été très abondante au cours des dernières années, qu'on considère les travaux de Bourdieu, de Boltanski et Thévenot, de Latour et autres. Là, je parle des travaux qui ont été faits plus tôt, des travaux aussi du Centre de sociologie de l'innovation, Latour, Calon, et aussi les travaux qui sont sortis de la sociologie économique et de la sociologie culturelle aux États-Unis, qui sont des domaines d'études en expansion, en fait en explosion, dans le sens où ce sont des domaines où le sujet de l'évaluation est très central, mais ce sont aussi des domaines qui étaient très marginaux dans la sociologie américaine, dans le milieu des années 80, quand moi j'ai immigré aux États-Unis, qui sont maintenant parmi les domaines d'études qui attirent le plus grand nombre, si on mesure par le nombre de membres qui font partie des sections de la sociologie de la culture, de l'American Sociological Association, où sociologie économique est aussi un domaine extrêmement dynamique. Et ce sont des domaines qui nourrissent cette sociologie d'évaluation, qui est un domaine transatlantique. Et malheureusement, beaucoup d'Américains ne savent pas du tout ce qui se passe ici, et vice-versa, beaucoup de Français ne connaissent pas du tout les travaux qui se font aux États-Unis sur ces sujets. À partir de cet article, j'ai développé un nouveau projet avec un postdoc qui a passé les deux dernières années avec moi, Philippa Chang, qui étudie les fiction reviewers, les gens qui écrivent des comptes rendus pour le New Yorker, New York Review of Books, et elle s'intéresse spécifiquement à la question de comment est-ce que ces individus font leurs évaluations. Et la troisième personne, à part moi, quand on fait nos travaux comparés, ma spécialité, c'est évidemment l'évaluation par les pairs, mais le troisième membre de l'équipe, c'est Alaric Bourgoin, qui est maintenant à l'Université de Montréal, mais qui a été formé ici au Centre de sociologie de l'innovation et qui analyse le conseil de gestion. Alors, vous allez voir comment est-ce qu'on se sert de cette comparaison pour essayer de développer un programme plus cumulatif et plus comparatif dans l'étude de l'évaluation. Alors, je vais commencer par vous résumer un peu certains des grands thèmes de How Professors Think. Je reconnais quelques collègues dans la salle qui ont déjà lu le livre. Alors, je m'excuse d'avance, mais on m'a bien dit, alors que je préparais ces conférences, que mon public, c'est un public général, et je vais donc introduire ce livre comme si vous ne l'aviez jamais lu. OK? Et je m'excuse pour les répétitions. Alors, ce qui me préoccupe avant tout dans ce livre, c'est d'analyser la façon dont les individus investis dans l'évaluation de la recherche s'y prennent pour déceler la qualité, comment ils la reconnaissent et se convainquent, eux-mêmes et les autres, qu'elle est bel et bien présente, s'ils pensent que le processus d'évaluation est juste, comment ils gèrent les différends entre les disciplines. Il y a des critères différents, mais c'est des groupes interdisciplinaires que j'étudie, ainsi que l'évaluation, les défis propres à l'évaluation des projets interdisciplinaires ou des projets où des facteurs liés à la diversité sont importants, que la personne qui demande les subventions enseigne, par exemple, dans un small liberal arts en Arizona, c'est un facteur qui va peser. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on fait peser de tels facteurs en même temps qu'on se convainc qu'on essaie de trouver des formes d'excellence uniquement. Alors, C'est une culture très particulière que de mélanger ces critères d'excellence purement au niveau du projet avec des critères plutôt démographiques ou de diversité. Ça fait partie du contexte américain que j'étudie. Alors, ces questions-là nous permettent d'obtenir un plus large éventaire des problèmes ayant trait, et c'est des questions vraiment centrales aux sociétés modernes. À comment est-ce qu'on se convainc qu'on vit dans un système démocratique, dans un système méritocratique, dans un système où l'objectivité compte, où l'appréciation savante a du poids, un système où le goût et l'expertise peuvent être alliés de façon à ne pas distordre les résultats de l'évaluation, où la diffusion des pratiques de vérification sont très centrales à la rhétorique de l'excellence. Et je me demande comment est-ce que toutes ces formes de discours se maintiennent et s'articulent dans le contexte de l'évaluation. Donc, ce sont les questions que j'ai analysées dans ce livre pour lesquelles j'ai suivi pendant 2 ans 5 compétitions très prestigieuses qui vont de l'American Council for Learned Societies à la Social Science Research Council, Woodrow Wilson National Fellowship Foundation. C'est probablement des compétitions avec lesquelles la majorité d'entre vous n'êtes pas très familiers, mais c'est des bourses de recherche très prestigieuses qui vont, par exemple, l'American Council for Learned Societies va considérer 900 demandes par année et ils en supportent peut-être 30, ce qui veut dire que les assistant professors qui ont de telles bourses sont en beaucoup meilleure position pour obtenir leur permanence à l'université. C'est des choses qui ont du poids. Alors, j'ai pu observer 3 différentes commissions, mais j'ai aussi conduit des entretiens avec les membres des commissions et les directeurs de programme pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils acceptaient de participer. Quels étaient leurs critères généraux, c'est-à-dire je leur demandais quels sont les pires et les meilleurs évaluateurs, quels étaient les pires et les meilleurs projets. Alors, j'utilise comme méthode la même méthode que j'ai utilisée dans mon analyse de traçage de frontières dont j'ai parlé la semaine dernière, c'est-à-dire de vraiment les mettre dans un contexte où on me décrit ce qui est meilleur et ce qui est pire. Et j'avais aussi en main le rang qu'ils avaient donné aux demandes avant la réunion et aussi après la réunion. Alors, je peux leur demander très précisément qu'est-ce qui s'est passé avec John Smith, que votre collègue en économie a classé 40 et que vous aviez classé 4, et comment avez-vous réussi à négocier? Alors, il y a un point d'appui empirique très clair dans mon analyse. Et j'ai aussi un certain nombre de questions qui ont à voir avec leurs critères généraux d'évaluation, c'est-à-dire qui est votre héros, quels sont vos modèles, quels sont vos meilleurs étudiants, alors de façon à comprendre leur culture d'excellence à l'extérieur du contexte d'évaluation de la commission. Et je leur demande aussi plus généralement, est-ce que vous croyez à l'excellence académique? Oui, pourquoi, comment? Alors, en posant de telles questions, j'ai été capable d'identifier des différences très importantes dans la façon dont les disciplines que j'analyse comprennent le rôle de l'excellence. Alors, l'analyse porte largement sur les sciences sociales et ce qu'on appelle aux États-Unis les humanities, qui les lettres. Alors, ça va des disciplines les moins positivistes, comme la philosophie, les lettres, c'est-à-dire literatures, anthropologie, sciences politiques, histoire, économie. Alors, on a un peu un spectrum très large. Et je m'intéresse aussi non seulement à la façon dont ils définissent les critères intellectuels, quand je leur demande quels sont les critères principaux, pourquoi est-ce que celui-ci a gagné et non pas celui-là. On a fait une analyse très, très détaillée en se servant de l'analyse de contenu assisté par ordinateur de tous les critères qui étaient mentionnés. Et on est capable d'établir quels sont les critères principaux par discipline. On découvre que, par exemple, les critères les plus importants, ce sont les critères d'originalité et de portée intellectuelle et sociale, intellectual and social significance, mais que ces différents critères ont plus ou moins de poids selon les disciplines. Et j'ai aussi analysé avec des collaborateurs de façon assez fine l'importance des critères moraux, qui sont assez centraux quand on parle de l'originalité. Alors, ce n'est pas nécessairement des critères cognitifs. Quand on parle de l'originalité, on parle de la conformité, du courage. Alors, c'est un des points d'intérêt, c'est justement comment est-ce que les dimensions non cognitives contribuent à définir l'excellence. Dans la littérature sur l'évaluation par les pairs, dans les travaux de Merton, par exemple, il y avait toujours un peu la notion que les facteurs non cognitifs corrompent le processus d'évaluation. Alors, l'approche que je prends, qui est une approche quand même assez et très axée sur les descriptions de pratiques, est une approche qui crée beaucoup de place pour les émotions et les interactions. Alors, plutôt que de considérer que le non cognitif corrompt l'évaluation, j'approche l'évaluation comme un processus interactionnel et émotionnel. Et par exemple, quand j'explore de quelle façon est-ce que nos interviewés parlent des raisons pour lesquelles ils ont accepté de participer, je me souviens très bien que certains d'entre eux me disaient tout simplement « mais par plaisir ». J'aime beaucoup passer 2 jours avec des gens intelligents qui m'aident à comprendre ce qui se passe dans leur discipline. Alors, un des leitmotifs du livre, c'est une conversation avec Bourdieu, où pour Bourdieu, dans ses analyses du monde universitaire, il y avait toujours une lutte pour imposer des critères d'évaluation et de domination. Alors, c'était un contexte de lutte pour la monopolisation de ressources. Dans mon analyse, je mets bien l'accent sur le fait que dans certains cas, la monopolisation des ressources est importante, mais il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles les gens participent, entre autres le besoin de confirmation de leur statut en tant qu'expert. L'univers dans lequel les chercheurs vivent, c'est quand même un univers où il y a beaucoup d'incertitudes concernant notre statut relatif. Alors, le fait qu'on leur demande de siéger pour décider de l'attribution des ressources, ça les conforte cristallise pour eux l'accord intersubjectif sur la valeur de leur opinion. Non seulement parce que c'est des experts reconnus, mais aussi parce que ce sont des gens qui ont le respect du milieu. C'est-à-dire que quand on les approche, auparavant, il y a des discussions à l'intérieur de l'institution, à savoir qui va siéger, et évidemment, le comportement moral des individus compte pour décider qui va être approché. Alors, ce sont généralement des gens qui pensent qu'ils sont reconnus comme ayant un bon jugement et étant en général « fair ». Et cette question de fairness est absolument cruciale à la légitimité du processus que je vais décrire. Un des thèmes majeurs que je vais développer, c'est le fait que cette culture évaluative que je vais décrire, c'est une où il y a des règles coutumières qui organisent cet univers. Et c'est des règles coutumières d'évaluation qui ne sont jamais enseignées aux étudiants. Mais des règles d'évaluation qui sont partagées. Et je sais qu'elles sont partagées parce que on invite comme ça des panels de 12-15 personnes à se réunir dans un gratte-ciel à Manhattan, des gens qui ne se sont jamais rencontrés. Et dès qu'ils se rencontrent, ils savent exactement quoi faire, ils savent comment le processus d'évaluation va se dérouler. Et quand on les interviewe sur qui étaient les pires panélistes et qui étaient les meilleurs panélistes, il y a une convergence assez marquée sur quelles sont les règles à respecter. Qu'est-ce qui définit un mauvais panéliste? C'est la personne qui ne respecte pas ses règles, qui, par exemple, va pousser ses étudiants de façon aveugle, qui ne démontre pas de pluralisme méthodologique ou de pluralisme disciplinaire, qui n'est pas capable une des règles qu'on décrit, c'est « deferring to expertise », c'est-à-dire d'être prête à se plier devant le jugement de gens qui connaissent le domaine mieux. Alors, je vais vous décliner certaines de ces règles. Le livre était d'abord intitulé « Cream Rising », justement parce que c'est un système où il y a une foi très forte dans cette culture évaluative. Ce n'est pas nécessairement une foi qui est partagée dans le monde universitaire, dans son entier, mais c'est certainement partagé par ceux qui acceptent de jouer ce rôle d'évaluateur dans les commissions et aussi souvent par ceux qui veulent obtenir des fonds. Alors, avant la publication du livre, on m'avait demandé de présider un panel où le Social Science Research Council du Canada faisait une enquête sur tous les La pratique de l'évaluation par les pairs dans les sciences sociales et humaines du Canada. Et c'est un des rares cas où il y a des données qui ont été rassemblées sur des gens qui n'ont jamais demandé de subvention de recherche à des agences nationales de recherche. Alors moi, je ne vais pas faire l'analyse de ces données, mais si ça vous intéresse, elles existent. OK. Alors, ce que je vais vous décrire, c'est un système où il y a beaucoup de croyances et la question, c'est un peu quelles sont les règles qui sont respectées, qui font que cette croyance se maintient dans l'univers spécifique que j'analyse et qui plus tard, je vais comparer avec l'univers universitaire français pour vous donner un peu un preview. L'année après la publication du livre, j'étais en sabbatique ici pour une année et tout de suite, même avant que le livre soit fini, il y avait un grand débat ici dans le contexte français où Valérie Pécresse faisait passer une réforme et la CGT avait dénoncé, avait passé... au vote, une dénonciation de l'évaluation comme quelque chose, des chercheurs comme quelque chose d'inacceptable. Alors, c'est vraiment un contexte où, surtout quand on le regarde par rapport au contexte américain, où le principe même d'évaluation et qui était perçu comme l'interférence de l'État dans les syndicats et l'affaiblissement des syndicats, est très partagé, dans un contexte aussi de dénonciation du néolibéralisme. Alors que dans le contexte américain, quand on parlait d'évaluation, le mot néolibéralisme n'était jamais prononcé. En fait, c'est rare que le mot néolibéralisme est prononcé dans le contexte d'évaluation américaine. La dénonciation du New Public Management ou Audit Society, qui est très connue dans le contexte des universités européennes, est beaucoup moins fréquent dans le contexte américain. Alors... Alors, j'ai conduit des interviews qui ont duré à peu près 2 heures où j'ai pu leur demander spécifiquement de me décrire quels sont leurs critères d'évaluation. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai identifié les critères d'évaluation dont ils servent et plus précisément les règles coutumières dont ils servent. Et j'ai comparé ces règles d'une discipline à l'autre. Et ce qu'on a découvert, c'est que the best of the best ou la crème de la crème d'un universitaire dans un département d'anglais ou d'anthropologie ou chez un économiste peuvent coexister. Alors ici, je vais retourner à mon texte pour développer l'argument. Alors, l'argument, c'est en partie que l'entreprise... La méthode dont je me suis servie était féconde dans la mesure où elle a mis à jour dans quel sens des disciplines variées donnent à l'originalité et à d'autres critères d'évaluation. Quel sens elle leur donne. Alors, il est peu étonnant, finalement, que les meilleurs... les meilleures demandes de subvention des départements d'anglais ou d'anthropologie et peut avoir avec ceux des économistes. Cela ne veut pas dire cependant que l'entreprise académique est en faillite ou dépourvue de sens, mais plutôt que les disciplines, et ça c'est vraiment un point clé, ne s'épanouissent pas dans les mêmes conditions et que les membres filtrent la qualité à travers des prismes différents. En autre mot, comme j'écris en anglais, « they shine under different lights ». Okay? Alors, c'est un argument ici contre l'écrasement des types d'excellence. L'idée que « if discipline shine under different lights » est un argument en faveur du pluralisme intellectuel et du pluralisme épistémologique. Les critères d'évaluation de la qualité et de l'excellence sont pondérés différemment et peuvent faire l'objet d'intenses conflits qui se font jour quand les hiérarchies sont menacées. Alors, par exemple, quand les économistes imposent leur propre hiérarchie aux autres sciences sociales. Alors, au moment où j'écrivais le livre, il y a Larry Summers, qui était alors le président de Harvard, qui avait publiquement et très explicitement fait une déclaration plaçant la science économique, sa propre discipline, tout au haut des hiérarchies des sciences sociales, ce qui avait vraiment fait scandale et ce qui a en partie amené qui a été forcé de démissionner de Harvard. Évidemment, il avait aussi fait des commentaires désobligeants sur l'inhabilité des femmes à faire des mathématiques, mais ses déclarations sur la hiérarchie des disciplines n'avaient pas aidé. Alors, How Professors Think intervient au cœur des débats sur la diversité épistémologique dans les sciences sociales. Une fois de plus, l'un des leitmotivs est que ces disciplines s'épanouissent dans des conditions différentes, sont bonnes à traiter des questions différentes et qu'il vaut mieux qu'elles se placent sur des matrices différentes, précisément parce que leur objet diffère radicalement. Alors ici, on revient aux questions de la pluriarchie qui était centrale à la première conférence et qui est un peu le fil conducteur des quatre conférences. En effet, cela implique que l'excellence et la diversité, ici la diversité épistémologique, n'est pas antinomique. Alors ça ici, c'est en parenthèse. Pendant que j'écrivais le livre, on m'avait aussi chargé dans la Faculty of Arts and Sciences à Harvard de développer, j'étais en charge de conseiller le doyen sur, ça s'appelait Diversity and Professional Development. Alors c'est la promotion de la diversité pour qu'on engage un corps professoral plus divers, mais aussi la création de programmes de mentorat pour les professeurs. Et il y a beaucoup de professeurs dans certaines disciplines très classiques, comme classique, philosophie, mathématiques, qui croyaient que prendre en compte des facteurs de diversité, ça allait nécessairement amener à une grande médiocrité. Alors, c'était vraiment une bataille de tous les jours dans l'université, et c'est d'ailleurs une bataille de tous les jours. Alors que je me souviens, à cette époque, d'avoir visité Stanford, et un des mottos, c'était « Diversity and excellence go hand in hand ». Alors, la question de la position des présidents de l'université dans ce contexte et de quelle façon que l'articulation de excellence et diversité est faite au niveau du leadership fait une très, très grande différence. Alors, le pluralisme intellectuel permet la coexistence de formes variées et complémentaires d'excellence. En autres mots, la sociologie, l'anthropologie et l'économie devraient pouvoir coexister pacifiquement, en partie parce que chaque discipline dispose d'un ensemble d'outils d'analyse qui leur permettent de s'atteler à différents aspects de la réalité avec des angles différents et complémentaires. Alors, un des arguments que je vais développer dans la quatrième conférence, qui porte précisément sur les processus culturels, c'est que les sociologues doivent s'attaquer aux questions pour lesquelles on est uniquement équipés, y compris l'analyse des processus culturels. Alors, cette conférence-ci porte sur les questions d'évaluation, mais la semaine prochaine, je vais parler de stigmatisation et de racialisation. Et dans la dernière conférence, je vais ramener ces différents processus culturels et je vais les comparer pour voir comment est-ce qu'ils opèrent pour ouvrir de nouvelles pistes de recherche pour l'analyse de l'inégalité. Ici, je parle en tant que sociologue qui vit dans une ville où il y a le National Bureau of Economic Research et le département d'économie de l'Université de Harvard et de MIT, où les économistes sont extrêmement dominants et où les autres sciences sociales se sont toujours mises en posture où elles doivent se justifier et on dit aux sociologues « Oh, vous faites l'analyse de réseau et nous, on s'occupe du reste ». Alors, c'est vraiment un contexte maintenant dans les sciences sociales américaines où il y a en anglais, « tug of war », une compétition féroce à savoir quel est le terrain qui reste pour les autres sciences sociales. Et c'est pour ça que je prends une position quand même très ferme sur la question de l'importance qu'on joue, nous les sociologues, sur un terrain où on est uniquement équipé, où on peut étudier des phénomènes pour lesquels les autres disciplines ne sont pas équipées, surtout dans un domaine où les randomized control trials, il a fallu que je cherche sur Google comment traduire randomized control trials, essais contrôlés, randomisés, sont de plus en plus dominants comme critères par lesquels on établit ce qui existe et ce qui n'existe pas. Donc, je réitère l'importance des hiérarchies et des pluriarchies. Bien entendu, les disciplines rivalisent plus ou moins, effectivement, pour atteindre l'hégémonie avec le résultat que nous savons, le cas de l'économie que je viens juste de mentionner. Mais dans ma recherche, je revendique un espace distinct pour la sociologie, comme je viens de le mentionner. Alors, étant donné l'entremêlement des critères dans les cultures disciplinaires, une approche pragmatique de l'évaluation, qui est ce que je développe, reconnaissant que le processus d'évaluation n'est pas linéaire et nécessaire. Typiquement, Les évaluateurs comparent différents ensembles de propositions ayant certaines caractéristiques communes. Alors, je me souviens d'un cas où on a mis ensemble toutes les propositions qui concernaient des auteurs noirs non canonisés. Et ils étaient comparés les uns aux autres avec le présupposé qu'on n'allait pas tous les subventionner, donc il fallait trouver le meilleur. Il y a d'autres compétitions où on passe à travers la liste selon l'ordre alphabétique, plutôt que de les organiser par sujet, par méthodologie, par aire géographique. Alors, il y a différentes façons de créer des bundles, des comparants, l'univers de comparaison qui va déterminer comment est-ce que les rankings ou les ratings vont être réalisés. Alors, les évaluateurs sont mus par le défi pratique d'éliminer le plus de propositions possibles. Ils se ramassent avec des centaines. Alors, le but, c'est « let's eliminate ». Ce n'est pas nécessairement de trouver le meilleur, c'est de se débarrasser de tout ce qu'on peut pour voir qu'est-ce qui va survivre. C'est une logique qui est très, très différente de ce que les doctorants ou les applicants s'imaginent. Ils pensent qu'on choisit les meilleurs. En fait, on choisit le moins pire. Parce qu'il y a trop d'informations, il faut trouver des raccourcis, il faut pouvoir réduire le nombre d'heures qu'on va y passer de façon à ce que les gens puissent prendre leur avion après 2 jours. C'est un problème très pratique. Cette entreprise d'évaluation est très, très compliquée et extrêmement prend beaucoup de temps. Alors, il faut essayer de résoudre le défi. Alors, souvent, dans ces pratiques d'évaluation, les évaluateurs sont assez incohérents dans leur pratique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout consistants dans les critères dont ils vont se servir. Ils vont comparer certaines propositions à partir de l'originalité, mais pour d'autres groupes, ça va être des questions de portée sociale ou de portée intellectuelle. Et il y a une dimension cognitive assez incohérente, compte tenu que cette évaluation se déroule au cours d'une journée ou deux. Alors, c'est très difficile de toujours maintenir un même focus. Donc, certains critères sont un peu aléatoires et indéfendables. Mais malgré les imperfections du système que tous reconnaissent et le fait qu'ils soient conscients des contraintes pratiques du travail d'évaluation, la plupart des évaluateurs que j'ai considérés considèrent que le système marche. Ce qui m'est paru quand je leur ai demandé quelles étaient les règles qui, selon eux, avaient été enfreintes par d'autres membres de la commission, ils m'ont décrit en réponse à ma question portant sur le plus mauvais des mondes, cette question des règles coutumières vers laquelle je me tourne maintenant. Alors, quelles sont ces règles coutumières? Une première règle, c'est celle du pluralisme disciplinaire. Ce sont des panels multidisciplinaires. Alors, si on insiste pour imposer les critères de sa discipline aux autres panélistes, on ne se fait pas d'amis. Alors, par exemple, un économiste qui insisterait que les demandes de subventions qui viennent de disciplines moins consensuelles sont inférieures, évidemment, il va avoir beaucoup de problèmes à convaincre les autres que son évaluation doit être respectée. Il faut d'abord démontrer le respect qu'on a pour les autres disciplines, avoir une certaine ouverture d'esprit. Ensuite, il y a la règle qui consiste de déférence disciplinaire. Alors, il y a un cas de conflit où il y avait deux femmes qui faisaient « women's studies » qui était très critique d'un philosophe qui voulait que le panel supporte un projet qu'elle jugeait logocentriste. Alors, elles se sont opposées. Et le philosophe qui faisait partie du panel était très choqué qu'on ne mette pas plus de poids à son jugement. Alors, il a décidé de ne pas déjeuner avec les autres membres du panel à l'heure du... Et le program officer a dû aller lui parler et le convaincre que oui, les gens respectent bien son opinion et qu'on honore son expertise, etc. Alors, c'est un exemple du genre de tensions qui sont créées quand cette règle de déférence disciplinaire n'est pas respectée. D'autres normes seraient la norme de pluralisme méthodologique. Une norme en particulier qu'on a identifiée, à laquelle je ne m'étais pas attendue au départ, c'est une norme qu'on a appelée contextualisation cognitive, qui veut dire qu'on n'applique pas, si par exemple on a une ethnographie qui est faite en sciences politiques, on n'applique pas les mêmes standards d'ethnographie que si c'est une demande de subvention qui vient de l'anthropologie, simplement parce que l'ethnographie en anthropologie et en sciences politiques n'est pas pratiquer de la même façon. Il faut donc utiliser des critères qui sont le plus appropriés pour la discipline de la personne qui demande les subventions. Okay? Alors, c'est quasiment au niveau de l'habitus. C'est à force de contribuer, de participer dans des commissions qu'on apprend comment faire le travail de façon à ce que les autres contributeurs nous perçoivent comme étant des évaluateurs légitimes. Alors, il y a vraiment une dimension d'expérience. En même temps, la culture qui prévaut, c'est une culture démocratique. Et l'idéal, c'est un peu un idéal habermasien où on se retrouve autour de la table en tant qu'expert et ou en tant que connaisseur, dirais-je plutôt, et où on partage nos opinions et on essaye de se convaincre l'un et l'autre que notre cadrage de chaque demande est la meilleure. Alors, c'est vraiment a framing war, si vous voulez, une position de type de cadrage qui sont parfois incompatibles. Et que je sois un prof à Harvard ou que je sois un homme de 70 ans, importe peu, c'est le critère de la raison qui est censé dominer. Évidemment, au niveau pratique, l'expérience, l'âge, la seniorité, le prestige de l'université où on enseigne compte, mais on ne peut pas se pointer et dire « je suis un prof de Harvard, faites ce que je veux », parce qu'à ce moment-là, évidemment, on perd toute légitimité. Alors, la question, c'est comment on maintient sa légitimité tout en étant capable d'influencer l'évaluation telle qu'elle est conduite. Alors, on peut se demander quelles sont les raisons pour lesquelles les gens qui participent dans ce processus continuent à croire au processus. Alors, on peut se demander justement quelles sont les conditions de possibilité d'un tel univers. Comment est-ce que ces concepts de moi universitaire sont formés? Dans le livre, je mets l'accent beaucoup sur la longue formation doctorale auquel les gens sont exposés. C'est un système où ça prend 5-6 ans pour faire son doctorat, on participe dans les séminaires et en même temps, on observe ses profs faire de l'évaluation sans arrêt et on découvre quelles sont les postures légitimes dans lesquelles ils s'engagent quand ils font de l'évaluation. Alors, il y a un côté mimétisme et apprentissage à travers une socialisation qui est très important, mais c'est vrai aussi de d'autres systèmes universitaires, comme en Allemagne en particulier, mais où il y a beaucoup moins de séminaires qu'il y en a aux États-Unis. Le système d'éducation doctorale aux États-Unis est quand même très intense au niveau du nombre de cours qu'il faut prendre, mais il y a aussi d'autres conditions qui favorisent l'anonymité de l'évaluation. Le fait qu'il y ait 4000 universités aux États-Unis, peut-être 200 universités de recherche, et qu'ils soient dispersés dans l'espace. Ils ne vivent pas tous à un endroit, ils ne sont pas tous à Paris les uns sur les autres, ou ils se comptoient au gym ou au bon marché. Il y a une espèce d'anonymat qui fait que ça peut être perçu un peu moins comme zero-sum game. Mais aussi, il y a un marché académique qui demeure quand même assez dynamique, ce qui veut dire qu'il y a les gens sont encouragés à continuer à croire au système et à continuer à faire eux-mêmes des demandes de subventions ou à envoyer leurs articles dans les grandes revues pour pouvoir eux-mêmes pouvoir avoir une certaine mobilité. Alors, si le système n'avait pas de mobilité, ce serait beaucoup plus facile pour les gens de devenir très cyniques par rapport au système. Ou peut-être que ceux qui deviennent cyniques arrêtent d'essayer d'être mobiles. Alors, une des fonctions de la croyance, c'est de pouvoir rester marketable. La croyance dans le système est presque une condition pour pouvoir continuer. Mais il y a aussi des conditions qui ont à voir avec ce principe démocratique que j'ai mentionné au début. Une compétition qui donnerait toutes les subventions à des profs qui enseignent dans la Ivy League ou des profs qui sont concentrés sur la côte Est, ce serait une compétition qui n'aurait aucune légitimité. Tout simplement parce qu'il y a le présupposé que l'excellence est distribuée à travers la nation et qu'elle est présente non seulement dans les universités d'élite, mais aussi dans les universités publiques. Et le principe démocratique et méritocratique anime le fonctionnement dans son ensemble. Alors, je me souviens très bien de cas où, par exemple, il y avait deux demandes de subvention qui avaient chacune des faiblesses, et une des deux était soumise par quelqu'un qui enseignait dans un small liberal arts college. Alors, c'est un cas où le critère de diversité devenait saillant, et c'est cette personne-là qui l'obtenait plutôt que la personne de la Ivy League, en disant, à part égale, on essaye de distribuer les ressources plutôt que de les garder dans les mains des universités qui ont déjà beaucoup de ressources. Il y a aussi un facteur politique qui est que les institutions universitaires ont un haut niveau d'autonomie, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus difficile pour les technocrates de s'ingérer dans le processus d'évaluation. Tout à l'heure, quand je vais parler du cas français, il y a beaucoup moins de protection des universitaires par rapport aux grands bureaucrates. Alors que de voir des évaluations renversées par un président d'université qui va intervenir, ce serait extrêmement mal vu, et parce que ce serait de violer le principe même de l'évaluation par les pairs. Alors là, il y a des différences de pratiques d'évaluation qui sont aussi très, très différentes. Alors, je ne vais pas quand même vous donner une description hagiographique de l'évaluation par les pairs telle qu'elle est pratiquée aux États-Unis, dans la mesure où il y a quand même beaucoup de monde qui critique son manque de fiabilité, son manque de constance ou de good old boy culture, qui est perçu comme déterminant un certain nombre de résultats, qui est générateur d'inégalités et qui concerne directement la question du respect des règles coutumières. Alors, en effet, l'univers de l'évaluation par les pairs fonctionne vraiment en vase clos et est très peu connu et très peu compris. C'est en partie pour ça que j'ai écrit le livre. Seuls ceux qui sont présents dans la salle de délibération savent ce qui s'y passe. Les tensions internes sont caractéristiques de ce monde. Tous les évaluateurs sont pris dans des réseaux interpersonnels. Ils ont des étudiants, ils ont des collègues, ils ont des amis qui existent dans des milieux souvent assez réduits, par exemple dans des sous-champs ou dans des sous-spécialités. Il leur est fréquemment demandé de juger le travail d'individus avec qui, par nécessité, ils n'ont qu'un faible degré de séparation. Alors, leur compréhension de ce qui définit l'excellence est quelque peu contingente sur l'environnement culturel, institutionnel et disciplinaire dans lequel ils existent. Ils ne sont pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas sortir de ces réseaux, c'est impossible. Mais en même temps, ils peuvent, compte tenu une des règles coutumières principales, c'est ce que j'appelle « bracketing personal interest ». Alors, on ne peut pas, il y a des critères où on doit s'abstenir quand, par exemple, nos propres étudiants sont évalués ou nos collègues dans notre université. Mais si un de mes meilleurs amis enseigne à Berkeley, je ne suis pas forcée de dire « c'est mon meilleur ami, je ne vais pas me prononcer ». Alors, la liste des conditions sous laquelle il faut s'abstenir n'est pas très développée. Et il y a beaucoup, beaucoup, si l'étudiant de mon meilleur ami est évalué et que personne ne sait qu'en fait j'ai cette relation, je ne suis pas obligée. Si je voulais faire, ce que je n'ai d'ailleurs pas fait, faire une liste de recommandations qui sortent de mon étude, ça serait certainement une des recommandations que de créer une liste beaucoup plus exhaustive et explicite des conditions sous lesquelles on peut limiter l'effet de le network embeddedness, qui est quand même assez présent. Alors, l'appréciation savante et l'expertise sont facilement liées à l'homophilie, car les évaluateurs définissent souvent comme excellence ce qui leur parle le plus ou ce qui est plus comme eux. En fait, j'ai des interviewés qui disent exactement ça. « What she did was very much like what I do, so therefore I really loved it. » Alors, il y a comme un manque de distance par le fait. Je veux dire, les questions de ce qui est intéressant, c'est des jugements de goût. Alors, un interviewé en particulier très intéressant disait « Il faut demander aux évaluateurs explicitement de séparer leur jugement de goût, what I find interesting, des jugements d'exécution, qu'est-ce qui est bien fait. » Et quand il y a un conflit entre les deux, il faut toujours donner plus de poids au jugement d'exécution. Alors, il y avait une femme en particulier qui disait, j'aime beaucoup la danse et c'est pour ça que j'ai décidé de pousser cette demande de subvention qui essaie sur la danse. Ou un autre, I love songbirds, mais c'est des facteurs qui sont très idiosyncratiques. Mais une des règles, c'est justement que ces facteurs idiosyncratiques, c'est des facteurs illégitimes qu'il faut aussi savoir mettre de côté. Mais en fait, ça, c'est des règles idiosyncratiques qui ne sont pas très, très bien institutionnalisées. Alors, compte tenu de tous ces problèmes que je viens de développer, il existe quand même une variété de moyens pour imposer des critères constants, accroître la fiabilité et réduire l'ambiguïté. Et ici, bien sûr, on se réfère à la quantification avec la notation qui a gagné beaucoup en popularité au cours des dernières années. Mais en général, les gens que j'ai interviewés maintiennent que la délibération joue un rôle central dans l'instauration de la confiance. Les décisions justes résultent d'un dialogue entre des types d'experts variés, un dialogue qui protège la confidentialité et met en balance différents facteurs et différentes formes d'excellence. Elle laisse aussi la place à une certaine flexibilité et la possibilité pour les groupes d'élaborer une vision commune de ce qui définit l'excellence. Alors, c'est un peu comme si l'excellence émerge d'un processus de marché où ces gens, qui sont des experts ou des connaisseurs, essayent de se convaincre les uns les autres de ce qui est le mieux. Ils raisonnent collectivement sur ce qui vaut la peine d'être supporté. Alors, l'autorité personnelle n'entache pas le processus, mais pour beaucoup est perçue comme un médium d'expertise et renforce la confiance dans la qualité des décisions prises. En autre mot, c'est des gens qui se disent « je suis là parce que je suis moi et j'ai un bon jugement. » Et j'ai un bon jugement parce que ça fait 40 ans que je travaille sur ce sujet. Et quand on me montre un projet de recherche, je sais tout de suite si c'est nouveau ou non. S'il y a déjà 150 personnes qui ont écrit sur le problème de la résistance dans la classe ouvrière britannique, par exemple. Quelqu'un qui ne connaît pas la littérature, c'est pas qu'en fait c'est un sujet qui a été longtemps épuisé. Alors, ils se convainquent eux-mêmes qu'ils y sont en tant que connaisseurs. Alors, ils justifient leur présence parce qu'ils ont une capacité de connaisseur de la même façon qu'un connaisseur de vin ou un connaisseur de musique classique, une connaissance qui est basée sur la capacité de développer un système de classification raffiné. Et ceux d'entre nous qui sont dans la salle, qui formons les étudiants, je pense qu'on a tous l'expérience on a des gens qui viennent nous présenter une idée et dans 2 secondes, on peut leur dire « non, ça ne vaut pas la peine », parce qu'on sait que ça a déjà été fait ou on sait que le cas théorique est un cas théorique des années 60. Alors, ils ont un certain flair qui trouve son origine dans leur longue exposition à des travaux universitaires. Alors, ils ont une foi dans le système et c'est une foi qui les amène à être assez prompts, à dénoncer les abus. Alors, au début, j'ai parlé un peu de la façon dont mon approche à ces questions diverge de Bourdieu. Et je veux, en conclusion, simplement mentionner que dans mon approche, la formation de l'identité du soi universitaire est extrêmement cruciale. Jeff Alexander, dans son livre « Fin de siècle, sociologie, je crois », explique comment Bourdieu n'a pas de concept de soi. Alors ici, on retrouve un peu le même problème. Et un des points de base, c'est que vraiment pour comprendre pourquoi le système marche, il faut vraiment mettre l'emphase sur comment est-ce que les universités américaines créent ce soi évaluatif qui est si hautement institutionnalisé. Sans dire que c'est un système parfait, mais quand on l'observe dans un contexte comparatif, on se rend compte à quel point il marche. Et là, ça m'amène à me tourner rapidement aux différentes études comparatives rapides que j'ai conduites avec des collaborateurs. Et c'est tous un peu « occasional papers ». Ben, le deuxième, c'est quand même un papier qui a beaucoup plus de poids. Les autres, c'est un peu « occasional pieces ». Vous voyez, le premier avec Bruno à 4 pages. Alors, ce n'est pas des études en profondeur, mais c'est quand même des réflexions sur les caractéristiques distinctives des autres systèmes. Alors, dans le contexte français, au moment où Bruno et moi, on écrivait sur, comparant un peu les résultats de How Professors Think avec le contexte français, Madame Pécresse, la ministre de l'Éducation supérieure de la Recherche, est en train d'imposer une réforme importante, officiellement destinée à améliorer le classement international des universités françaises, particulièrement de Shanghai. Et les classements internationaux devinrent beaucoup plus décisifs pour les présidents, les administrateurs et les présidents d'université à ce moment-là. Même Bruno Latour était obsédé des classements. Cette année-là, j'étais visiteur à Sciences Po. Il prenait vraiment les classements au sérieux. Alors, la question de comment augmenter la situation des universités françaises était devenue impérative. Et c'était vu par les syndicats, en particulier la CGT, comme une tentative de l'État d'évaluer les syndicats en institutionnalisant des mécanismes plus forts de contrôle des chercheurs. Et c'était vu un peu comme une tentative de soumettre les universitaires aux impératifs de l'État et de l'économie en diminuant leur autonomie, en leur demandant de rendre des comptes. Alors, l'évaluation par les pairs, un processus qui semblait aussi couler de source pour les Américains, en vain, de plus en plus contesté et mal vécu, même à être vu par beaucoup comme un affront au concept même d'autogouvernance des membres syndiqués du corps enseignant. Alors, on a décrit dans notre article la révolte anti-évaluation qui se manifestait par exemple par un appel ouvert des syndicats à refuser le bonus d'excellence offert par le CNRS, qui a révélé à quel point l'évaluation par les pairs est ancrée dans le processus de formation de l'identité de soi, qui varie considérablement d'un système universitaire à l'autre, ici du système français au système américain. Cette identité de soi universitaire est au centre du puzzle et il est essentiel de mieux comprendre les conditions qui rendent un type de monde possible plutôt qu'un autre. Alors, les universitaires français avaient longtemps fait l'expérience de l'intervention routinière du processus d'évaluation de la part des hauts fonctionnaires et des présidents d'université. Par exemple, la direction du CNRS et les présidents des universités ont par le passé été autorisés à mettre leur veto ou à changer le classement des candidats à une promotion. Et notre argument, c'est en partie que de telles interférences affaiblissent la légitimité de l'évaluation dans son ensemble pour les candidats et pour les membres des commissions. C'est décourageant, surtout pour les jeunes. De telles interventions renforcent la perception que le processus d'évaluation est une farce ou porte la marque de décision politique, et ça touche au cœur de la légitimité de l'évaluation universitaire et ça contribue à aggraver le cynisme ressenti vis-à-vis cette dernière. Et bien entendu, une part du cynisme est aussi présente dans le contexte américain, mais qu'on s'en réjouisse ou non, il y a beaucoup moins de syndicats, les syndicats sont plus faibles, il n'y a pas de syndicats aussi puissants que la CGT qui sert de contrepoids à invalider l'idée de l'évaluation. Alors, de plus, il y a la critique politique du néolibéralisme et de la Audit Society qui est beaucoup plus centrale ici. Ces facteurs convergent pour maintenir une plus grande foi dans la méritocratie aux États-Unis et plus particulièrement dans l'évaluation du mérite comme aspect essentiel du fonctionnement du système supérieur d'éducation et de la recherche. Alors là, je vais aller très vite parce que je me rends compte que le temps court. Je vais vous dire très, très, très rapidement ce que ces divers articles, ces diverses analyses ont fait. Dans le cas de l'article avec Catherine Hautonymi, on a comparé des panels de scientifiques avec des panels des sciences sociales. Et ce qu'on trouve, c'est simplement que les scientifiques ont beaucoup moins tendance à appliquer cette règle de cognitive contextualism. Ils pensent que ou quelque chose est vrai ou n'est pas vrai. On ne joue pas avec les méthodes d'évaluation. Alors, ils ont une conception plus rigide des critères. Ils sont beaucoup moins ouverts au pluralisme de critères d'évaluation. Et ils ont aussi. C'est la différence principale que je vais souligner. Dans l'article avec Anasson sur le contexte chinois, ici, on discute du fait que les comités de promotion pour les universitaires incluent toujours des membres du Parti communiste. Alors, comment est-ce qu'une culture d'évaluation par les pairs qui est essentiellement fondée sur une culture démocratique peut survivre dans un environnement où, en fait, il y a un contrôle direct politique dans toutes les instances d'évaluation. En même temps, on décrit des changements importants qui étaient en place au moment où on travaillait sur l'article, qui est qu'un certain nombre de présidents d'université avaient dénoncé le système et refusaient de siéger. Alors, ça vous montre comment, au même moment où la Chine investissait des sommes énormes dans des excellentes initiatives un peu parallèles à ce qui se passe ici en Allemagne. En même temps, les présidents d'université étaient conscients du conflit entre l'utilisation de critères politiques et une culture d'évaluation par les pairs qui est essentielle à leurs yeux pour une culture méritocratique universitaire. Le quatrième cas, c'était le cas de l'Espagne, où en conversation avec des universitaires espagnols, on m'avait demandé de discuter des défis auxquels ils font face, où dans un contexte d'internationalisation universitaire, les chercheurs les plus seniors sont amenés à évaluer les chercheurs les plus juniors, alors qu'eux n'ont jamais fait l'expérience d'internationalisation. Alors, les juniors ont l'impression que les seniors ne sont jamais là pour les aider, qu'ils sont plutôt là pour les coller. Alors, ça crée une crise de confiance dans l'univers auquel ils participent. Les universitaires avec qui j'étais en conversation disaient que ce problème était particulièrement aigu dans les humanities, dans la mesure où ils travaillent sur des questions plus attachées à une tradition nationale, c'est-à-dire des questions de langue, de littérature, art et histoire qui sont tous attachées à une histoire nationale. Alors, les humanities étaient encore moins internationalisées, il y avait encore plus de conflits générationnels. Alors, pour conclure sur ces quatre petites études, on pourrait dire que le drame de l'internationalisation et à la façon dont cette dernière touche directement les effectifs jeunes et âgés fait question partout à une époque où l'accent mis sur l'institutionnalisation d'une culture d'excellence devient une obsession des systèmes d'éducation supérieure dans le monde entier, avec la production de davantage de technologies d'évaluation, de vérification et classement. Ainsi, avec ce développement croissant d'une culture d'évaluation, on observe de multiples pressions pour garantir plus d'universalisme et de méritocratie dans un contexte de suspicion vis-à-vis du néolibéralisme, de crainte d'interférence gouvernementale ou politique, de localisme, de clientélisme. Dans tous les cas, je soutiens que la formation de l'identité de soi académique est centrale dans la compréhension des types de pratiques d'évaluation déployées et de la légitimité qui leur sont accordées. Alors, ces quatre comparaisons de cas peuvent aussi servir de ferment à l'élaboration d'une sociologie de l'évaluation plus large qui pourrait rendre compte de ce phénomène complexe. Alors, c'est ce sujet vers lequel je me tourne très brièvement. Alors ici, je vais référer rapidement à cet article sorti en 2012 dans Annual Review of Sociology. Je l'ai déjà décrit un peu en vous disant comment est-ce que je mets en comparaison certains courants en sociologie française en particulier, sociologie culturelle et sociologie économique aux États-Unis, plus la littérature sur Institutional Logic, qui est aussi une littérature qui a gagné beaucoup de visibilité. Et en conclusion, je propose un agenda pour la sociologie comparative et cumulative d'une sociologie de l'évaluation et de l'évaluation. Et en prenant comme point d'appui le concept de Karen Norsetina, Machineries of Knowledge, je propose qu'on compare systématiquement un certain nombre d'éléments d'un code d'évaluation à un autre. Alors, par exemple, cette question de règles coutumières. Essayons d'analyser systématiquement ce que ces règles coutumières ont l'air d'un contexte à l'autre. Par exemple, fiction reviewing et management consulting. Analysons systématiquement quel est le self-concept des évaluateurs, dans quelle mesure ils sont investis dans l'évaluation, dans quelle mesure est-ce qu'ils y croient? Et pour mon ami Claude Rosenthal, ici, on a les démos. Quels sont les supports techniques dont ils se servent pour démontrer la valeur? Par exemple, les consultant managers, ils ont des grilles très développées dont ils se servent, des grilles qui sont formalisées et qui limitent ou qui cadrent énormément leur capacité de se prononcer. Alors que dans le cas de l'évaluation de la critique littéraire, évidemment, c'est un travail artistique, ils ont licence complète. Alors, à partir de ce, et ici, évidemment, on a les critères d'évaluation. Alors ça m'a servi un petit peu de point d'entrée pour réfléchir sur comment est-ce qu'on peut développer une sociologie comparative des processus d'évaluation. Ce qui m'amène à la dernière partie de cette présentation que je vais faire en 3 minutes, qui est cette comparaison de l'évaluation de Fiction Reviewing, Management Consulting and Scholarly Evaluation, que je conduis en collaboration avec ces deux collègues. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, analysons comment est-ce que les customary rules, les règles coutumières, varient selon le type d'évaluation dont il s'agit. Alors, on a décidé d'analyser systématiquement, de comparer nos cas au niveau du type d'objet qui est évalué. Alors, si on parle d'une compagnie qui est en train de se faire évaluer par conseil de gestion, le livre qui est évalué par le critique littéraire et les propositions qui sont évaluées dans les commissions. Alors, qui est l'audience? Qui est le public? Quelle est la nature de l'agent? Alors, l'agent, par exemple, dans le contexte des peer review, bon, on a des PhD, on a des réputations. Et qu'est-ce qu'on essaye de convaincre? Il n'y a personne qui va venir cogner sur notre porte et nous dire « Vous avez mal évalué, vous ne m'avez pas donné d'argent. » En fait, les gens, le public, ce sont les autres évaluateurs autour de la table. Ce qui est très différent de James Wood qui écrit pour le New York Review of Books, qui écrit en fait pour un public général, qui peut ou qui va peut-être recevoir des lettres des lecteurs, mais qui, en général, a probablement plus en tête les autres grands fiction reviewers qui écrivent pour le New York Review of Books, etc. Et pour ce qui est des gens, des conseils de gestion, eux, ce sont leurs clients. Ils essayent de satisfaire leurs clients. Alors, on a des contextes qui sont très différents, tant pour ce qui est de l'objet, des caractéristiques de la personne qui fait l'évaluation, le degré auquel ils doivent avoir des credentials, le processus par lequel ils sont qualifiés comme évaluateurs et quelles sont les caractéristiques de l'audience. Et aussi, en plus, nos comparaisons, c'est à travers différents domaines de travail. Alors ici, on a un peu la description rapide des caractéristiques de ceux qui travaillent dans le domaine de la fiction, et comme les peer reviewers que je vous ai décrit tout à l'heure, ce sont des gens qui se définissent par leurs caractéristiques en tant que connaisseurs. Ils lisent tout, ils peuvent très bien comparer les auteurs l'un à l'autre, et ils sont capables de déterminer ce qui est les caractères singuliers de l'évaluateur, mais ils sont aussi ma collaboratrice, Philippa Chung, a écrit quelques articles très intéressants sur de quelle façon est-ce qu'ils essayent de démontrer leur objectivité en démontrant leur distance par rapport aux auteurs. Je n'ai pas le temps de vous expliquer comment ça se passe, mais il n'y a pas de créditation formelle. Leur autorité est produite à travers leurs écrits, plus ou moins, et le fait qu'on leur demande de façon régulière de contribuer. Alors, je décris ici leur public. Et peer review, je vous ai déjà décrit plus ou moins le contexte que vous comprenez bien. Alors, je n'ai pas besoin de passer de temps là-dessus. Et le contexte des conseils de gestion, alors là, c'est un service qui est donné. Et il n'y a pas d'accréditation formelle. Et l'autorité est faite à travers la codification de l'évidence. Alors, la subjectivité de l'évaluateur est plus ou moins effacée, alors que c'est tout à fait le contraire dans le cas de Fiction Reviewers. Et à partir de ces caractéristiques, on analyse de façon plus fine quelles sont les conventions qui prévalent dans ces différents univers et dans quelle mesure, dans le fond, ce qui nous guide dans cette analyse, notre point de départ, c'était le concept latourien de black boxing. Quel est le processus par lequel l'évaluation devient tout à fait légitime et ne peut pas être questionnée? Est-ce que ça se produit? Alors, qu'est-ce que les management consultants ils font pour convaincre leur public, leurs clients, que l'évaluation est la bonne? Alors, c'est vraiment le ficelage. Comment est-ce que la boîte est fermée? Comment est-ce qu'il y a une doxa qui est créée autour? Alors, c'est l'utilisation extensive des instruments et de la codification. Validation méthodologique avec beaucoup d'attention aux détails, exhaustivité, une évaluation anonyme, etc. Alors que dans le cas des critiques littéraires, ça a beaucoup plus à voir avec leur évaluation personnelle et il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de contrôle extérieur et une démonstration de leur propre connaissership, etc. Alors, c'est là où on en est pour le moment. C'est encore, comme je disais tout à l'heure, c'est encore un article qui est en voie d'élaboration. Pour vous dire la vérité, la question qui nous arrête pour le moment, c'est à savoir si on doit les mettre, les trois cas, sur un continuum ou si, en fait, ce qu'on a, c'est un triangle avec trois configurations bien différentes. Alors, moi, je pense que c'est plutôt un triangle qu'une question de plus ou moins. C'est pas qu'ils sont plus ou moins ficelés, c'est plutôt qu'ils sont ficelés différemment. Alors, c'est les dernières revisions qu'il faut qu'on fasse à l'article avant de le soumettre pour vous donner les détails de notre Inside the Sausage Factory, notre production du savoir telle qu'elle se vit au jour le jour. Alors, je vais m'arrêter ici. Je vais tout simplement vous dire que, ah oui, ça c'est le papier qui va inspirer la dernière présentation où je rassemble les questions d'évaluation, de stigmatisation, de racialisation pour essayer de fléchir de façon plus générale sur comment est-ce que ces processus qui sont tous, comment dire en anglais, pregnant with meaning, c'est-à-dire ce sont des processus où la signification est absolument centrale, contribuent à la reproduction des relations d'inégalité. Et ce qu'on propose, ce que je vais vous proposer, c'est que si on pense on réfléchit à d'autres processus d'inégalité qui ont été étudiés ad nauseam dans la littérature, domination, exploitation, c'est évidemment aussi des processus où la signification est centrale. Mais quand on parle de l'évaluation, de la stigmatisation, ce sont des processus où l'intersubjectivité est de prime abord. Alors que si on se souvient de l'exploitation chez Marx, il le décrivait comme processus objectif d'expropriation, d'appropriation. Alors évidemment qu'il y avait de la signification, mais c'était décrit comme un processus objectif. Alors, c'est un peu sur ces questions-là sur lesquelles je vais conclure, mais avant d'y arriver, la semaine prochaine, je vais vous parler de ce grand projet qui est presque, presque terminé, qui va être, j'espère, envoyé chez l'éditeur dans 2 semaines, qui est sur la stigmatisation et la discrimination aux États-Unis, au Brésil et en Israël. Alors, j'espère qu'en vous décrivant comme ça très rapidement où je m'en vais, vous pouvez voir un petit peu la cohérence du projet. Et de quelle façon est-ce que ces quatre conférences sont en fait articulées autour de cette question de le monde en valeur, dans des univers qui sont en fait pas très commensurables, sauf pour le fait que ce sont tous des valeurs, des mondes où les questions d'évaluation sont déployées. Par des agents qui sont très différents et qui vivent des contraintes très différentes. Alors, la question théorique plus générale, c'est comment est-ce que ces contraintes s'exercent? Alors, une partie du papier avec Philippa et Alaric que je ne vous ai pas présenté, c'est sur les théories des contraintes. Il y a au moins 5 ou 6 façons de penser au processus par lequel l'action sociale est enabled and constrained. Alors, on peut penser, par exemple, au cas de enablement, le fait qu'une théière, le fait que ça a une hanche et un bec, it enables the pouring of the water. Alors, c'est le cas où la structure de ce qui produit l'action rend l'action possible. Alors, il y a toutes sortes de façons de réfléchir sur le processus de causalité qui est en place. Et c'est un peu cette perspective de quelle façon est-ce que les processus culturels enable, permettre, forme, créer des conditions pour l'inégalité, qui est le thème qui traverse ces quatre conférences, qui ont une certaine cohérence malgré tout. Merci.